Le fruit tentateur par Oswald Dallas. Qu'y a-t-il, mes enfants ? À cette question du prêtre, il se fit une accalmie dans le petit groupe de bonnes gens qui entouraient l'éventaire de la mère Renaud. « Monsieur le curé, dit-elle, il y a que ce galopin vient encore de faire des siennes. Il m'a volé une pomme à l'étalage. C'est un mauvais sujet. » L'enfant tremblait sous la rude poigne qui lui étreignait l'épaule. Il pouvait avoir une dizaine d'années. Il était en loques, nu-tête, nu-pied. Mais son visage barbouillé avait un air de franchise, dans ses yeux clairs brillait un regard honnête. « Pourquoi, mon petit ?» dit le prêtre. « As-tu volé cette pomme ? Tu avais donc faim ?»« Non, monsieur le curé, pas très faim, » répondit l'enfant en levant timidement la tête. « Alors, pourquoi ?» L'enfant rabaissa le front. « Je n'ai eu qu'à voir la pomme, elle m'a donné envie, elle était si grosse et si rouge. »« Vous l'entendez, le polisson ?» s'écria la mère Renaud, les bras levés comme pour invoquer le ciel en témoignage. Il mériterait qu'on le livre à la police. Bandit, fit le prêtre, dont un sourire éclaira l'austère visage. Tenez, voici de quoi vous indemniser, madame, ajouta-t-il, en tendant une pièce de monnaie à la fruitière. Et posant la main sur la tête du petit garçon, j'espère qu'à l'avenir tu ne voleras plus. Non, monsieur le curé, répondit l'enfant, en mordant au fruit dont il restait maître. Allons, je crois qu'on peut le relâcher, il ne recommencera plus. La fruitière se mit à rire. Elle fit le geste du jardinier qui garde ses carreaux un moine pillard, et l'enfant, ayant tourné vers le prêtre un visage épanoui de gratitude, prit la fuite. « Est-ce bien ainsi que se répriment les mauvais instincts, monsieur le curé ? » dis-je au moment où le prêtre passait près de moi, lent et grave. Il me regarda, surpris apparemment de la liberté que je prenais. « Devais-je, pour une bêtise, permettre qu'on punisse cet enfant ? » me demanda-t-il, avec un léger froncement des sourcils. Et me laissant un peu confus du sérieux qu'il prêtait à mes paroles, il poursuivit son chemin. Il était long et maigre. Sa soutane montrait presque la corde. On ne pouvait douter qu'il ne fût très pauvre. Sa figure émaciée, fatiguée, gardait les traces d'une grande beauté. Ses yeux surtout me frappèrent, larges et brillants, et néanmoins d'une douceur profonde. Dans l'ensemble, il donnait l'impression d'un homme ayant beaucoup souffert et qui, peut-être, manquant de tendresse par nature, avait été attendri par la douleur. Le hasard d'une excursion en Bretagne m'avait amené cet après-midi dans la petite ville de F, étrange et vieillotte, et guère plus importante qu'un village. Descendu dans le seul hôtel convenable, à l'enseigne des Trois Pêcheurs, j'étais sorti pour faire un tour quand, sur la place du marché, que flanque d'une part l'église Sainte-Gudule et de l'autre, l'antique hôtel de ville, devant l'une des boutiques dressées en plein vent, j'avais été témoin de la scène que je viens de rapporter. Le soir, après mon dîner, tandis que, flânant le long de la plage, je contemplais l'étrange effet d'un lever de lune sur les eaux de la baie, je vis venir le prêtre. Il marchait à tout petits pas, les yeux à terre, comme absorbé dans la méditation. En me croisant, il se redressa, me reconnut et fort poliment me salua. « Belle soirée, monsieur le curé, » attardai-je. Le son de ma voix le fit tressaillir. « Oui, » me répondit-il, « très belle. Fumez-vous » »« Fumez-vous ? » continuai-je en lui tendant mon étui à cigarette. « Non, monsieur. » Puis, s'imaginant peut-être m'avoir désobligé par ce refus, il tourna vers moi un visage illuminé d'un bon sourire, et il me sembla plus jeune qu'à notre première rencontre. J'estimais qu'il devait avoir 50 ans. « Vous êtes étranger, monsieur ? » me demanda-t-il. « Oui, » dis-je. « Et si ma réflexion de cet après-midi a pu vous paraître déplacée, du moins elle ne vous aura pas froissé, j'espère. »« Mais pas du tout, monsieur, pas du tout, » protesta-t-il avec un geste de sa main blanche et fine. Et après un silence, « Avez-vous remarqué, monsieur, reprit-il, combien rarement les tentations auxquelles nous succombons ont la nécessité pour excuse ? C'est la convoitise des yeux qui cause la chute de nos premiers parents, bien qu'il ne manquât rien à leur bonheur, et par leur faiblesse, ils entraînèrent dans leur chute tous les hommes. Le fait est que l'incident de tantôt est caractéristique, repartis-je. Cet enfant avait pris la pomme non point parce qu'il avait faim, mais parce que le fruit l'avait tenté par sa grosseur et sa couleur. Pour chacun de nous, continua le prêtre, le fruit tentateur existe. Le plus souvent, si nous répondons à son appel, ce n'est point par besoin, mais par envie. Vieil instinct, hérédité d'Adam, qu'on ne saurait déraciner et qui nous condamne à souffrir jusqu'à la fin des siècles. Il joignit les mains, ferma les yeux. Comment expliquer qu'un si minime incident l'affecta de la sorte ? Je risquais. Vous devez, monsieur le curé, avoir connu bien des cas de ce genre. Je veux dire bien des cas où un être, homme ou femme, aura succombé à la tentation sans nécessité visible. « En effet, dit-il, La plupart, il est vrai, ne m'ont été connus que sous le sceau du secret, dans l'ombre du confessionnal. Cependant, il en est un que j'ai le droit de vous raconter, pour peu qu'il vous intéresse. C'est le cas d'un homme qui, en succombant à la tentation, infligea la honte et le malheur non seulement à lui-même, mais à d'autres. Car voyez-vous, on ne limite pas les atteintes du mal que l'on fait. Ainsi, une pierre lancée dans l'eau en trouble la dernière des molécules. Il souriait en parlant, et toutefois, sa figure témoignait d'une extrême tension intérieure. « Je vous écoute, monsieur le curé, » fis-je, impressionné au-delà de toute raison, par son air autant que par ses paroles. Il s'assit sur un rocher, et les doigts joints, promenant ses yeux sur la courbe du petit havre, il sembla un moment avoir oublié ma présence. « Ce que je vais vous dire, » commença-t-il à brûle-pourpoint, « est arrivé il y a quelques années, bien loin d'ici, sur la frontière d'Alsace, où le marquis de Fontenières avait un château. Par parenthèse, vous comprendrez, monsieur, que je ne donne pas leur vrai nom aux personnages de cette histoire. Le marquis, grand connaisseur en matière d'art, disposait d'une fortune qui lui permettait de satisfaire amplement ses goûts. Tableaux, livres, pierres précieuses, tous également inestimables sous le double rapport de la beauté et de la rareté, garnissaient ses appartements et ses galeries. Sa collection de gemmes grecques et romaines était, je crois, la plus belle d'Europe. Il comptait au nombre de ses intimes un avocat de province, dont les succès avaient été si marqués dès le début et la carrière si rapide qu'à 38 ans, il était bâtonnier de l'ordre dans sa ville, une ancienne capitale parlementaire que nous appellerons, si vous le voulez, Kennevilliers. Cet homme de loi, rejeton d'une des très vieilles familles françaises et qui tirait vanité de ses origines, l'orgueil étant son défaut capital, avait pour toutes les choses de l'art une passion égale à celle du marquis, et l'en jugeait d'ailleurs avec une égale compétence. Ce n'est pas en vain, monsieur, que l'Église nous met en garde contre l'attachement aux objets matériels. De quelque prestige que l'art même les colore, nous n'y tenons que par une certaine frivolité, toujours accompagnée d'avarice, nous ne leur donnons qu'une part de notre cœur dérobée au prochain. L'homme dont je parle était religieux autant que riche. Cependant, il eut, sans hésitation, sacrifié à un caprice de collectionneur, ce qui lui refusait certainement un devoir de charité. Il reçut un jour une lettre par laquelle le marquis de Fontenières l'invitait à passer quelques jours en son château. Pour le décider, le marquis lui parlait d'une belle entaille qu'il avait récemment acquise et désirait lui montrer. Il lui décrivait longuement cette pierre, absolument unique et datant de la meilleure époque de l'art grec. Une semaine plus tard, l'avocat arrivait au château. « Venez, » lui dit son hôte, radieux et se frottant les mains, « venez vite voir ma merveille, il n'en est pas deux de son espèce. » Par une galerie qu'habitaient les plus glorieux spécimens de l'art des siècles, les deux amis gagnèrent un petit cabinet, de chaque côté duquel s'élevait jusqu'au plafond des vitrines. Le marquis en ouvrit une, pour en retirer un objet qu'il tendit à l'avocat sur la paume de sa main. C'était une cornaline, longue d'environ un pouce, tant soit peu moins large, et dont la gravure, exquise autant que magnifique, représentait la Nadiomène. Le prêtre s'arrêta et soupira. « Vous aussi, vous êtes un connaisseur, monsieur le curé, » lui dis-je. Il sourit, en faisant un geste qui semblait vouloir écarter des souvenirs fâcheux, puis, à voix basse. Si l'avocat avait jusqu'alors ignoré le péché d'envie, il le connut à 7 minutes. Il sentit ce désir de la possession qui, dès l'instant où il était entré dans l'âme, s'y installe et occupe tout entière. « Ce que je vous raconte là vous paraîtra sans doute étrange, monsieur. » Certes, il n'attendait de l'entaille aucun accroissement de bonheur réel ni de richesse, mais elle était le fruit tentateur, inutile et irrésistible. C'est avec la plus grande peine qu'il s'en sépara pour la rendre à son maître, et il éprouva comme un déchirement de cœur en voyant la vitrine se refermer sur elle. Remise en place sur son étagère, il la regardait avec des yeux qui n'arrivaient pas à s'en détacher. « Mais enfin, penserez-vous, cette pierre, si magnifiquement gravée qu'elle fût, n'était après tout aucune pierre. N'empêche qu'en ce moment, c'était la seule chose dont la possession lui semblait désirable. Et la force de son désir touchait presque à la démence. Il eut beau, jusque fort tard dans la soirée, s'entretenir de 1000 sujets avec son hôte, une pensée l'obsédait, le captivait, la pensée de l'entaille dans la vitrine. Ses propos finirent par trahir le désordre de son esprit. « Vous êtes fatigué, mon ami, lui dit le marquis avec bienveillance, et j'ai la cruauté de vous retenir par mes bavardages. Nous reprendrons demain cette conversation. » Minuit sonna quand il monta pour se coucher, mais en dépit de sa fatigue, il ne put fermer l'œil. Il se tournait et se retournait dans son lit, n'ayant plus qu'une idée. Revoir, revoir tout de suite cette pierre. À la vérité, il ne la reverrait que derrière une glace. Du moins, il serait seul pour en repaître son regard, pour imaginer qu'elle était à lui. En vain, il essaya de lutter. L'idée s'obstinait, se cramponnait. Elle fut la plus forte. Enfin, il se leva et silencieusement descendit le grand escalier. La vaste demeure avait le calme d'une tombe. Cependant, il regardait autour de lui avec crainte, comme s'il eût médité une mauvaise action. « N'ai-je pas entendu un bruit ?» se demanda-t-il brusquement. Il se blottit dans un angle de l'escalier, l'oreille aux écoutes, le front ruisselant de sueur. Mais rien ne troublait la tranquillité de la maison. Il s'était trompé. Qu'avait-il à redouter en somme ? Il ne faisait rien de mal en allant regarder la pierre. Le surprendrait-on dans cette démarche ? Éventualité peu probable, il trouverait un motif pour la justifier. Il se glissa le long de la galerie. Soudain, comme il arrivait à la porte du petit cabinet, il s'avisa qu'elle devait être fermée à clef, et que le marquis devait avoir la clé dans sa chambre. Quoi ? Ne pouvoir même jeter un coup d'œil sur l'intaille ? Il en eut un mouvement de colère, et il maudit le marquis au fond de son cœur. Pourtant, ayant tâté machinalement la poignée, il fut tout surpris de voir s'ouvrir la porte. Le marquis avait dû négliger de la fermer. Il entra. Le cabinet était plongé dans les ténèbres. De nouveau, il crut percevoir un faible bruit, comme si des pas assourdis avaient traversé la pièce. Il portait des chaussons de feutre. Ce n'était donc point ses propres pas qu'il avait cru entendre. Il s'arrêta, prêtant l'oreille. Mais à présent, le silence était absolu. « Je rêve, » fit-il. « Je suis le jouet de mes nerfs. Personne ne viendrait ici à pareille heure. » Il respira longuement, toucha le bouton électrique placé contre la porte, et le cabinet s'emplit de lumière. L'instant d'après, comme il s'approchait de la vitrine renfermant l'intaille, il recula en étouffant un cri. On avait enlevé la glace de devant, on l'avait nettement découpée le long des bords et déposée à terre sans dommage. Le contenu de la vitrine valait la rançon d'un roi. Cependant, on n'avait touché à rien. Sur l'étagère centrale, à la place d'honneur, trônait la glorieuse pierre qui, pour lui, représentait le plus enviable des trésors. Qui donc avait enlevé la glace ? Il promena ses yeux autour de lui. En même temps, son esprit s'appliquait à déchiffrer le mystère. Il avait eu qu'à pousser la porte du cabinet pour l'ouvrir, et cependant il était certain d'avoir vu le marquis la fermer à clé la veille au soir. La tentative de vol était flagrante. Où avait pu passer le voleur ? Un devoir qu'il ne se dissimulait point commandait à l'avocat d'éveiller la maison. Mais comment expliquer sa présence dans le cabinet ? À l'angle de la pièce le plus éloigné de la porte, il y avait un grand bureau chinois, d'ébène incrustée de nacre. Quatre pieds sculptés s'élevaient de 6 pouces au-dessus du parquet. Entre le bureau et le mur régnait un petit intervalle. L'avocat, ayant regardé de ce côté, resta soudain la bouche bée. Il venait d'apercevoir un bout de pied vaguement dessiné dans l'ombre sous le meuble. Le bruit qu'il avait entendu s'expliquait dès lors aussi bien que l'enlèvement de la glace. Un cambrioleur qui savait les richesses contenues dans la vitrine avait tenté de s'en emparer. L'avocat s'interrogea, l'espace d'une seconde, sur la conduite à tenir. C'était un homme vigoureux, mais il pouvait avoir affaire à un individu armé, et d'ailleurs, en utile raison, il serait toujours forcé d'expliquer sa promenade nocturne. Puis, une autre pensée lui vint. Le voleur, s'il n'avait été dérangé, eut vraisemblablement décampé avec tout son butin, y compris la merveilleuse intaille, bien que pour elle, elle ne pût avoir une valeur réelle. « Et quoi ? Cette intaille qui... Vous vous étonnerez, monsieur, qu'un homme d'éducation et des principes sévères comme le bâtonnier du barreau de Kenvilliers, un homme chez qui toutes les satisfactions du talent, de la fortune et de l'ambition avaient dû lasser de bonheur le désir, se laissa ainsi dominer, en ce moment, par l'esprit de convoitise. Hélas, il y a toujours dans la vie, pour les plus haut placés comme pour les plus humbles d'entre nous, un moment où vient la tentation. Le serpent nous offre la pomme, et alors ? Le prêtre, en soupirant, haussa les épaules. « Que servirait ? Reprit-il, d'insister sur ce qui arriva. Un voleur était là. Quelques objets qui vinssent à disparaître, lui seul répondrait de leur disparition. Peut-être l'avocat n'eut-il qu'à demi conscience de son acte. Peut-être. Mais n'allez pas croire que je cherche à l'excuser. Une force qu'il ne sut pas vaincre lui poussa la main. Il saisit la pierre, la coula dans une poche de sa robe de chambre, éteignit la lumière, rentra chez lui et s'y enferma. Eut-il aucun regret de sa conduite ? Aucun remords d'avoir volé un ami et permis qu'on le volât, non. Il ne vit que la réalisation immédiate de son désir. Il ferma les yeux à ce qu'avait de diabolique un concours de circonstances si favorable à son crime. Le matin venu, un grand tumulte éclata dans la maison. Les domestiques couraient d'un étage à l'autre. Cependant, on ne dérangea pas l'avocat. Il ne descendit que pour le déjeuner. Il n'avait pu dormir de la nuit, ses yeux trahissaient sa fatigue. « Me suis-je trompé ? » dit-il au marquis. « J'ai cru entendre du bruit ce matin de bonne heure. Il me semblait qu'on allait et venait, que des voix se répondaient avec émotion. J'espère que vous n'avez personne de malade. « Excusez-moi si l'on a troublé votre repos, » répondit le marquis. « Mais un cambrioleur a pénétré au château la nuit dernière. »« Un cambrioleur ?» s'écria l'avocat, feignant la surprise. Les domestiques, en prenant ce matin leur service, ont constaté qu'on avait forcé l'entrée du cabinet aux vitrines. « Du cabinet aux vitrines ?» répéta l'avocat. « Détail curieux, on n'a emporté que peu de choses, quelques pièces d'or, datant pour la plupart du règne de Vespasien, et l'intaille que je vous avais montrée hier. L'intaille a disparu ?» « Je garde l'espoir de la retrouver. Le voleur aura du mal à s'en défaire. »« Vous avez pris vos mesures ?»« Naturellement. Déjà la police est en chasse. »« Mais si, comme il est à craindre, le malfaiteur est un de ces professionnels que la perspective d'un bon coup attire parfois de loin. » Un professionnel, ayant devant lui tant d'objets de valeur, ne se fut pas contenté d'une aussi maigre rafle. Non, le vol est le fait d'un pauvre diable poussé par le besoin. Poussé par le besoin ? Quelle pointe cruelle l'involontaire ironie de ce propos enfonça au cœur de l'avocat. Le voleur fut arrêté le jour même alors que, dans son ignorance, il offrait une des pièces d'or en paiement d'un morceau de pain. Le croiriez-vous, monsieur, à l'audience du tribunal correctionnel où se jugea l'affaire, car la prévention de crime avait été changée en celle de délit, le marquis ayant dû comparaître comme témoin, l'avocat eut le triste courage de l'accompagner. « Oui, monsieur. » Il ne craignit pas d'aller voir convaincre et condamner le misérable qui, lui, avait l'excuse de la misère. L'accusé était un tout jeune homme, à peine sorti de l'adolescence. Son visage portait la flétrissure précoce des privations et de la maladie. Il grelottait sous ses minces vêtements, dans cette salle de justice, froide en toute saison, glaciale en hiver. Il reconnut le vol des pièces d'or, mais se défendit, comme vous le pensez bien, d'avoir pris l'intaille, ce qui prévint contre lui les juges et le marquis lui-même. Celui-ci serait rentré en possession de la pierre qui lui sollicitait l'indulgence du tribunal. « C'est mon premier vol, » dit le jeune homme. « Je suis ouvrier. J'avais toujours eu une conduite irréprochable. Je sais que j'ai mal agi, mais je manquais de travail depuis plusieurs mois. J'avais faim. Vous qui m'écoutez, vous ignorez ce que c'est que d'avoir faim. Et par un hiver comme celui-là ? Oui, j'ai eu tort de voler ces pièces, mais enfin, mettez-vous à ma place. Figurez-vous qu'ayant femme et enfant, vous les voyez se consumer peu à peu. Imaginez que pour les sauver, vous ayez tenté de tous les moyens honnêtes. Ça n'excuserait-il pas une défaillance ? Le tribunal, dit le président, est disposé à vous tenir compte de tout ce qui peut atténuer votre faute. Mais vous ne vous êtes pas contenté de prendre les pièces d'or. Vous avez enlevé aussi une pierre d'une très grande valeur. Qu'en avez-vous fait ? Je ne sais pas de quoi vous me parlez, répondit le jeune homme. D'ailleurs, laissez que je vous raconte. Je m'étais introduit dans le château par effraction. J'avais, en m'éclairant avec une lanterne de poche, découpé au diamant la glace de la vitrine. Je suis de mon état miroitier. Je venais de déposer la glace sur le parquet lorsque j'entendis du bruit, comme si quelqu'un allait entrer dans la salle. En effet, je n'eus que le temps d'éteindre ma lanterne, de me cacher derrière un bureau, et quelqu'un entra. « Décrivez-nous ce quelqu'un, » dit le président. « Le moyen ? Je ne pouvais pas le voir à cause du bureau, et moi-même, je tenais à rester invisible. » En entrant, il tourna un commutateur, la salle s'éclaira. Ce qu'il fit ensuite, je l'ignore. C'est peut-être lui qui a volé la pierre. Est-ce que je sais, moi ? En tout cas, il ressortit au bout de quelques minutes après avoir éteint l'électricité. Je profitai de son départ pour faire main basse sur les monnaies d'or et pour m'enfuir. Voilà. Le président hocha la tête. Votre explication est par trop invraisemblable. Vous persistez à dire que vous ne savez rien de la pierre ? Je persiste, répliqua le jeune homme, parce que c'est la vérité. Il fut condamné à 3 mois de prison. Son désespoir était si violent qu'il eut, au moment où on l'emmena, une sorte de crise nerveuse. Et l'avocat le laissa partir ? M'écriai-je. Il laissa ainsi partir ce pauvre diable en regard duquel il n'était qu'un criminel ? Oui, monsieur. Il le laissa partir ainsi, dit le prêtre. Mais les voies de la Providence sont insondables. Il ne se sentait pas bien en revenant chez le marquis. À 2 ou 3 reprises, dans l'auto qui le ramenait, il fut secoué par les frissons de la fièvre. Il dut s'aliter sitôt rentré. le médecin reconnut un état d'extrême dépression, qui pouvait devenir grave si le malade ne se soumettait à un repos de plusieurs semaines. Ainsi, retenu sous le toit de l'ami qu'il avait si indignement trompé, l'avocat endura 1000 tourments. La pierre qu'il avait volée lui devint un objet de malédiction. Il n'osait s'en séparer un moment ni la mettre dans son bagage, de crainte qu'on ne l'y trouvât s'il venait à mourir. Il aurait pu s'en aller qu'il l'eût peut-être jeté dans un coin, mais j'en doute. Je doute qu'il y eût renoncé de son plein gré. Bien qu'elle fût le signe de son péché, elle lui demeurait toujours chère. Vers l'époque où il commençait de se remettre, une femme se présenta au château. Elle était jeune, minable d'aspect, avec une figure réduite à rien par le dénuement, et elle fixait devant elle deux yeux de louve affamée. Mère d'un enfant de 2 ans, n'ayant plus de quoi le nourrir, elle venait quêter non une aumône mais un emploi. Elle sut trouver près du marquis des accents comme il n'en sort que d'un cœur maternel. Il s'attendrit, l'hébergea et l'occupa. L'enfant, vif, pétulant, fut bientôt la joie du château. Jamais ses vieux murs n'ayant retenti des éclats d'une gaieté si fraîche. On l'aimait, on le choyait à qui mieux. Chose étrange, il se prit d'une sorte de prédilection pour l'avocat, et au bout de très peu de temps, qui voyait l'un, voyait l'autre. Cette amitié bizarre fut d'un merveilleux effet sur un homme qui avait toujours vécu seul. Il était dur et égoïste, elle l'attendrit et l'humanisa. À côté de ce petit compagnon, il n'était plus le même. Il l'avait un matin dans sa chambre, gazouillant et caquetant à plaisir, quand la mère vint le chercher. Mais l'enfant, au lieu de suivre sa mère, se blottit en riant contre son ami. « Allons, va, mon petit Georges, » lui dit l'avocat. « Tu reviendras tantôt. » Une demi-heure après, le marquis entrait chez l'avocat. Il semblait très excité. « Mon ami, » commença-t-il, « l'intaille volée. » Le visage de l'avocat, pâli par la maladie, devint encore plus pâle. Son cœur battit à se rompre. Machinalement, il porta sa main à la poche où il gardait toujours la pierre. La pierre n'était plus là. « Eh bien » bégaya-t-il d'une voix presque défaillante. « On l'a retrouvée. Retrouvée. Il n'est pas douteux que le condamné ne l'eût prise. Pourquoi, cependant, a-t-il nié jusqu'au bout ? Voilà ce que je n'arrive pas à comprendre. » L'avocat dut faire un effort pour dominer son trouble. « Racontez-moi comment on a retrouvé la pierre. » « Un de mes domestiques l'a découvert tout à l'heure entre les mains du petit Georges. Il jouait avec. » J'ai interrogé la mère, elle prétend ne rien savoir. Et là-dessus, savez-vous ce que j'apprends ? Que cette femme, admise chez moi un peu à la légère, sans que je ne me fusse suffisamment renseigné sur mon compte, est la femme même de mon cambrioleur, de l'homme qui purge actuellement sa peine. Elle a surpris ma bonne foi. Si j'avais su qui elle était, jamais elle ne serait entrée ici. J'entends qu'elle parte. L'avocat baissa la tête. Songez-vous que vous la rejetez à la misère, et non pas seulement elle, mais son enfant innocent. Un silence se fit entre les deux hommes. L'avocat méditait. Soudain, sa figure changea. Il murmura, comme se parlant à lui-même. C'est par un enfant qu'a été racheté le monde. Et comme s'il eût pris une résolution dont il se louait. Je voudrais voir cette femme. Le marquis ne chercha pas à savoir ce que signifiait ce caprice. Il sonna, pria qu'on lui amenât la femme. Elle parut avec son enfant dans les bras. Et soit qu'à son corps défendant cette vue le remua, soit qu'il céda un sentiment de curiosité, prévenant d'un signe son ami qui allait parler, il dit à la malheureuse. « Je ne suis pas impitoyable. Il ne tient qu'à vous de rester dans cette maison. Tout ce que je vous demande, c'est un peu de franchise. Vous savez, n'est-ce pas, d'où provenait la pierre qu'on a trouvée aux mains de votre fils ?» La femme sembla vouloir répondre, mais un sanglot lui comprima la gorge, des larmes roulèrent sur ses joues. « Vous réclamez un aveu, mon ami ?» dit l'avocat. « Vous avez raison, il vous est dû. C'est pourquoi j'ai désiré la présence de cette femme, car je ne réparerais qu'à demi si je ne m'accusais et ne m'humiliais devant elle. » Le marquis ouvrit de grands yeux. Évidemment, il concevait des inquiétudes pour la raison de son hôte. « Expliquez-vous, » dit-il avec douceur. « Eh bien, » reprit l'avocat, « sachez-le, il n'est ici de coupable que moi. Vous ? C'est moi qui pris l'intaille. Je suis l'inconnu dont il a été parlé au procès. » Et que le condamné avait vu s'introduire dans la chambre vitrine alors que lui-même était caché derrière un meuble. Je n'avais pas su résister à la tentation de revoir cette pierre. Quand je descendis dans le cabinet, je trouvai la vitrine ouverte. Je n'avais qu'un geste à faire, l'intaille était à moi. Je fis ce geste, mais ce n'est pas le moins odieux de mon crime. En me taisant devant la justice, je décourageai l'indulgence des juges à l'égard d'un homme moins coupable que moi. J'appelais sur deux innocents le malheur et le déshonneur. Que Dieu me pardonne. » L'avocat partit le soir même. Personne ne sut jamais où il s'était retiré. Il résigna ses fonctions, quitta le barreau, vendit ses biens et en distribua le prix à diverses œuvres, ne pouvant rien pour le condamner, qu'un abbé public n'eût pas innocenté du vol des pièces d'or, et qui d'ailleurs arrivait à l'expiration de sa peine, il lui donna les moyens de se refaire une vie honorable, en assurant l'existence de sa famille. Telle est l'histoire que j'avais à vous dire, monsieur. » Et sans un mot de plus, le prêtre se leva, me salua, et lentement reprit le chemin de la ville. Deux jours plus tard, j'achevais de déjeuner dans la salle à manger de mon hôtellerie, près de la fenêtre, quand il vint passer dans la rue les yeux baissés. « Qui donc est cet ecclésiastique ? » demandai-je à l'hôtesse. « L'abbé Réveillou ? Mais c'est le curé de la paroisse, » me répondit-elle. « Un saint, monsieur, si jamais il en fut un ici-bas. Les enfants l'adorent, et quant aux pauvres, il est leur providence. Il n'y a point de privation qui ne s'impose pour eux. Le premier besogneux venu lui tirait le pain de la bouche. » Je le regardais s'éloigner, maigre, les yeux fixés brillants, et je me demandais si ce qu'il m'avait conté ce n'était pas sa propre histoire.